102.3
RLP
Bazar.
Et
vous.
Bazar. Et vous.
Expert en rien, on s'intéresse à tout. Et vous.
Bon, est-ce que c'est trop demandé là que de commencer l'émission à l'heure? Non, attends, tu commences à te foutre de moi, mais là je demande juste à ce qu'on commence à l'heure. C'est bon, ils ont pris leur petit café, ils ont fumé leur petite clope, c'est trop compliqué pour vous de respecter des horaires?
Ouais, le speed là, de début d'émission, et tu vas le garder pour toi, excuse-nous de vivre. Hein.
Excusez-moi! Non, mais attends, pour rigoler, mais excusez-moi de pas vouloir passer pour une nouille en fait, et d'être juste crédible, hein, et tenir mes engagements. Heureusement, il y en a une ici qui montre de l'implication dans le projet. Si j'attendais après vous, sérieusement, je pourrais attendre vraiment, vraiment longtemps.
Oh, attends, tu vas te calmer tout de suite. Quoi. Madame, je veux tout contrôler, il faut que ça se passe comme ci, il faut que ça se passe comme ça.
Ouais, on va faire une émission interactive où chacun aura sa place, on aura son mot à dire. Ouais, bah c'est ça, on est vachement loin.
Ah ouais, donc en fait, d'accord, tu le prends comme ça. Moi, je pense que surtout, vous avez de la chance de m'avoir dans l'équipe, bande de guignols.
T'es sérieuse, là?
Est-ce que tu crois que j'ai l'air de rigoler, là?
T'es sérieuse, là?
Puis, j'ai pas envie de perdre mon temps avec vous, en fait, donc je vais saluer nos auditeurs qui n'ont pas à subir vos renvocations de pauvres petites victimes. Bonjour, mes petites salamandres. On est super contents de vous retrouver pour cette 5e émission. Et oui, déjà 5, c'est incroyable, non? Et comme à chaque fois, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mes deux guignols, Thomas et Benjamin, qui semblent déjà saoulés de parler, en fait.
Calme-toi.
Au sommaire, aujourd'hui, comme à notre habitude, des petites surprises et... Ben tiens les gars, vous allez vous présenter. Vous allez présenter ce que vous allez faire, vu qu'apparemment je suis dans le contrôle. Allez-y, présentez vos chroniques. Tu vas faire quoi, toi, Thomas?
Je vais vous parler d'addiction.
Super. Et toi, Benjamin?
Moi, je vais parler des films où il y a de la miniaturisation.
Minimoy.
Tout à fait.
D'accord. Bon, écoutez, je vais pas attendre que vous me posiez la question. Donc
ah
moi...
oui, et toi, Lisa?
Je vais te poser la question.
Excuse-moi.
On va essayer de le faire ensemble.
Vas-y. Et toi, Lisa?
Eh bien, le sujet de la chronique du jour n'est autre que la communication non violente.
Oh.
Envoyez le jingle. Et
l'essentiel.
Cette mutation administrative.
Nous sommes pour
retrouver, oui, l'essentiel.
Citoyens.
Ta gueule.
T'as une langue qui n'est pas ordinaire. T'as qu'à fermer ta gueule.
Ouf. Une pastille contre les mots. Comprendre le langage et savoir communiquer. Alors, la communication non violente, ou CNV, est une méthode de communication fondée sur des qualités telles que l'empathie, la compassion et le respect. Autrement dit, tout l'opposé de l'interaction que Benjamin, Thomas et moi-même on a eu en début d'émission. Oula, mais quelle coïncidence, dis donc, mais qui sont malins? Ils ont fait une introduction contre-exemple de tout ce qui n'est pas de la communication non violente. Et mais elles ne seraient pas super bien préparées, ces émissions,
hein? C'était extrêmement bien joué.
Franchement, c'est magnifique. Années. Allez, on se jettera des fleurs plus tard. Revenons-en à notre CNV. Le principe de la CNV a été inventé par Marshall Rosenberg, docteur en psychologie et auteur du célèbre livre « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs ». Et il s'est inspiré de la philosophie de Gandhi prônant la non-violence, la communication avec l'autre sans lui nuire, et les travaux de Carl Rogers dont il a été l'élève basé sur l'empathie. Voilà, CNV. C'est dans les années 90 que ce concept s'est peu à peu introduit en France suite aux conférences d'un ancien avocat, Thomas Dansenbourg.
Yeah.
Auteur du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Donc, c'est pas toi, hein?
Ah, c'est longtemps.
Il me semble pas. Donc, cette forme de communication s'attache à instaurer entre les êtres humains des relations fondées sur une coopération harmonieuse, sur le respect de soi et des autres. Prenez-en note, s'il vous plaît. Il s'agit d'un outil de communication principalement verbal qui vise à transformer les conflits en de simples dialogues. Dans la relation aux autres, nous sommes toujours confrontés à nos besoins, mais comme nous ne savons pas les reconnaître et encore moins les écouter, nous avons tendance à les étouffer, ce qui va en découler un langage dit alors de chacal en CNV. C'est Marshall Rosenberg qui en fait a utilisé deux animaux, le chacal pour définir tout ce qui est jugement, reproche, culpabilisation, en gros vous, et il y a la girafe du coup qui va être dans l'empathie, l'écoute, voilà.
Ça te va bien la girafe, t'as un peu la tête d'une tête de girafe.
Je t'emmerde. Je disais donc le langage chacal où l'on va vomir sur l'autre nos frustrations, on va reprocher à l'autre de mal faire, on va être dans la culpabilisation et le jugement. Alors, comment prétendre à une bonne écoute de l'autre si nous ne savons pas le faire pour nous-mêmes, hein? Et pour y parvenir, la CNV propose d'apprendre l'alphabet d'une communication débarrassée de toute violence, à commencer envers soi-même. Et la technique repose sur l'application de 4 principes fondamentaux, c'est-à-dire 4 étapes. La première, c'est l'observation. une observation très factuelle, il faut s'en tenir aux faits et ne faire que constater sans émettre de jugement. La deuxième étape, c'est le sentiment, exprimer son ressenti face à la situation. La troisième, le besoin. En gros, souvent, quand on ressent quelque chose, enfin un sentiment, que ce soit colère ou quoi, c'est parce qu'on a un besoin qui n'est pas assouvi. Voilà. La quatrième étape, c'est la demande. On formule clairement notre demande à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'impose pas à l'autre. C'est-à-dire qu'on lui propose une solution. Donc voilà, c'est quatre étapes. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. On va prendre un exemple du coup très concret. Tout à l'heure, lors de l'introduction de l'émission, je reprochais aux garçons de ne pas commencer à l'heure. Si nous qualifions l'échange que l'on a eu par un animal, d'après vous, ce serait lequel ?
Chacal, gros chacal.
Mais qui sont bons ? Et maintenant, si nous reprenions le conflit, mais que nous le gérons par la méthode de la CNV, ça donnerait quoi ? Observation. Bien. Donc en girafe, ça donnerait quoi ? Observation. J'observe que nous avons du retard sur le début de l'enregistrement de l'émission. Sentiment. Cela m'agace et me stresse. Besoin. J'aime être ponctuel et à l'heure quand on me donne une heure de rendez-vous. Et quatrième, la demande. Pouvons-nous convenir d'un horaire de début qui convienne à tous et s'y tenir s'il est acté ? En fait, ici, je suis pas dans l'accusation et je peux aussi vous laisser la place de vous exprimer sur vos besoins, vos revendications, tout ça. Et je n'impose pas, c'est-à-dire que je formule une demande. Vous pouvez me répondre, va te faire foutre. Dans ce cas-là, restez des chacals, moi, ça me dérange pas.
C'est un peu chacal de dire ça.
Non, mais voilà, vous avez compris un peu l'idée. Et si je vous demandais de vous de faire, dans cette situation, d'observer, donc de faire les quatre étapes, observation, sentiment, besoin, demande.
Bon, si je me lance comme ça sans trop réfléchir, j'essaierais plutôt de dire, d'accord, elle veut que ça commence à l'heure, et moi je vais essayer de lui répondre, ah, je comprends que t'as envie que ça commence à l'heure, mais moi en même temps, j'ai envie de me la jouer à la cool, c'est bénévole, on n'est pas payé, revendication, tous derrière nous, mettez des tips, donnez-nous de l'argent, autonomie, France Insoumise.
D'accord. Et toi, Benjamin ?
Ah, pareil, hein.
Comme toi.
Tout pareil, copier-coller. Ok, bon, on va faire des petits exercices parce que j'ai l'impression que vous comprenez pas très bien l'idée, quoi.
Mets-nous dans le bain.
En gros, on peut arriver à une solution sans s'en mettre plein les mouilles, tu vois. Et ça, ça c'est quand même agréable, quoi. Tu vois, ça respire, c'est beau, tu vois. L'harmonie entre les relations humaines, quoi. Mais il est important de préciser que la CNV permet de comprendre que les sentiments et les émotions que l'on ressent ne sont causés ni par la situation observée, ni par le comportement de l'autre, mais par nos besoins qui sont essentiels et dans certaines situations pas respectés. Vous voyez, c'est pas parce que vous vous êtes en retard ou vous fumez votre clope en fait le problème, c'est parce que moi j'ai un besoin d'être ponctuel. Donc en fait c'est pas votre faute ou c'est pas la faute de la situation. Et ça c'est compliqué à comprendre des fois. Mais il y a un monsieur qui est super malin.
Encore une girafe ?
Non, c'est Abraham Maslow, un psychologue américain qui a théorisé les différents besoins humains selon une pyramide.
La pyramide de Maslow. Je sais toujours pas ce que c'est, mais je connais.
Et ces besoins, lorsqu'ils sont satisfaits chez un individu, le mènent à un état de bien-être, voire de bonheur, tu vois. On trouve les besoins physiologiques, en bas, c'est-à-dire manger, dormir. Les besoins de sécurité, d'appartenance, avoir des amis, des relations sexuelles, ceux qui ont de la chance. Un besoin d'estime, confiance en soi. Et enfin, un besoin d'accomplissement, qui est tout en haut. Je me perds dans ma chronique. Bref, après avoir dit tout ça, ça fait beaucoup d'informations, mais je vais quand même vous proposer un petit jeu, parce que le but c'est quand même de s'amuser, hein,
bah oui.
Voilà. Je vais dire des phrases, et dans un premier temps vous allez me dire si c'est de l'ordre du langage de chacal ou de girafe. Par exemple, si je dis tu es un fainéant. Un fainéant.
Un fainéant ?
Un fainéant.
Ça c'est chacal ça.
C'est complètement chacal.
Tu ne travailles pas.
C'est chacal aussi.
Chacal.
Ouais, mais oui, ça peut être un constat aussi. Ça, quelqu'un qui travaille pas, il travaille pas. Mais
bon, vous dites chacal du coup.
Moi, je dirais belette. Du coup, c'est entre les deux.
Ouais.
Ok, belette. Moi aussi, je travaille dessus depuis 3 semaines.
C'est girafe ça.
Chacal déguisé. Un peu.
Ah, chacal déguisé, ouais.
T'es fort.
Je n'en peux plus. Je fais tout dans cette maison.
Oh, bah, chacal.
Ça c'est casse-couille ça. Hein.
chacouille.
C'est chacouille.
C'est chacouille. Seriez-vous d'accord pour que l'on se dise bonjour le matin ?
Oh mais ça c'est girafe, girafe bio tisane, ça c'est Europe Écologie Les Verts ça.
Ça dépend sur le ton.
Sur lequel tu le dis ?
Ouais.
Non c'est de la girafe.
Ok. Ouais.
Cela fait un mois que tu n'as remis aucun devoir.
Mais c'est chacal, je pense.
Ouais, je sais pas, c'est subtil.
Non, c'est girafe. Parce que c'est vraiment observation de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que ça fait un mois que tu n'as remis aucun devoir. C'est très factuel, en fait. On n'est pas dans l'accusation de l'autre, on est juste dans l'observation des faits.
Mais comme il disait Benjamin, en fonction du ton, est-ce que ça devient pas chacal, girafe, loutre, belette
C'est sûr que, après, c'est aussi en termes d'intention. C'est quelle est l'intention que tu mets derrière? Est-ce que tu as envie d'être bienveillant et de faire en sorte que la discussion évolue? Ou est-ce que tu as envie, dans tous les cas, sous prétexte de parler CNV, en mettre plein la gueule à l'autre, quoi.
Mais est-ce que le ton, ça peut faire passer une des répliques, mais une des choses que tu veux dire, le ton que tu mets, ça peut le faire passer de girafe à chacal?
C'est là où l'intention, en fait, est hyper importante, je pense. Et toi, dans ton intention et dans ton envie de... Au final, c'est quoi ton envie? Est-ce que c'est d'avoir raison, mais déguisé parce que tu parles CNV et du coup, l'autre, il peut pas se sentir excusé parce que j'ai pas dit tu, j'ai pas fait de reproche ou quoi? Et en même temps, t'as quand même envie d'avoir raison et d'avoir le dessus. Donc en fait, c'est dans ton intention.
Ok.
Et pareil, là, tu vois, je me sens incomprise. Vous diriez quoi?
C'est girafe. C'est très girafe.
Et non, c'est chacal. Parce que pareil, on émet un jugement sur votre manière de me percevoir. Incomprise, c'est-à-dire que je juge votre capacité à ne pas me comprendre.
Mais si elle dit « je comprends pas », là, c'est, ça devient girafe?
Oui, c'est « je ne comprends pas la situation ». Elle parle d'elle.
Ah oui, ça reste cantonné à son...
Voilà,
à son,
c'est ça, il faut...
En même temps, t'exprimes un sentiment.
C'est pas vraiment un sentiment, c'est un sentiment déguisé, c'est plutôt une accusation, là, tu vois.
Un déguisement ?
C'est un déguisement.
Pas un déguisement, plutôt.
Un dégaisement.
Ouais. Un dégaisement ?
Un dégaisement.
Un tabernacle ! Un starfoulard !
Alors, c'est sûr qu'au début, quand on débute... Il y a une manière de parler un peu chiante. Vraiment, c'est pompeux. Tu vois, l'autre, il est là. Oui, alors, ce que j'observe de la situation, c'est si ça. Moi, je me sens comme ci, comme ça, et tout. C'est vraiment chiant. Mais après, au bout d'un moment, tu le bouleilles et t'en fais quelque chose d'un peu plus fluide. Mais l'idée est là, tu vois, de vraiment faire cet effort, de pas accuser l'autre. C'est pas la faute de l'autre. C'est toi, juste, qui a un besoin qui est pas respecté. Et ça t'est vraiment propre. Il faut juste que t'arrives à le formuler.
Non, c'est le temps de comprendre un peu le...
Le cheminement.
Ouais, c'est ça.
Bon, ça fait beaucoup d'informations, tout ça. C'est pas le moment de décompresser, hein, avec une petite page de publicité.
Bazar.
En ce moment, dans vos salles de spectacle, Gwyneth parle trop.
Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je sors du lit, j'enlève la couette, je mets une culotte, je mets un t-shirt, je mets un pantalon, je mets des chaussettes, je me coiffe, je me brosse les dents, je me débarbouille.
Un spectacle hilarant!
Il est quelle heure? Il était 9h. Oh, trop cool! Je vais aller au supermarché vu qu'il ouvre à 9h.
Trois dates complètes! Moustifiaque sur les airs, moustifiant l'opéra de Sydney.
Hein? Est-ce qu'il y a du courrier? Je sais pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je rentre chez moi, donc je remets la main sur la poignée, j'accède la porte. Oh, j'avais pas fermé la porte. Suis-je bête? Du coup,
Gwyneth parle trop.
Je prends la boîte aux lettres, je ressors, je vais à ma boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres. Oh, il y avait rien. Je vous dis, c'est normal, on est dimanche. Du coup, je referme la boîte.
Gwyneth parle trop.
Dans la boîte à clé, je retourne dehors.
Dis donc, Gwyneth parle trop.
Et là, qu'est-ce que je fais? Je pense à fermer la porte à clé.
Gwyneth parle trop. Un spectacle emmerdant.
Elle me dit 3,20€. Moi, je me dis, tiens, ça a augmenté. La dernière fois, c'était à 3,19€. Je me dis, on vit quand même dans un monde. Enfin, c'est commence à être compliqué. Hein.
Vincent?
Louise, du coup, vas-y, assieds-toi.
Désolée du retard, en fait j'étais déjà là, mais je t'ai vu de loin, je me suis dit, pas ouf en vrai, mais bon, j'ai envie de... Voilà quoi.
Ouais, je comprends, tu veux boire un truc? Je te l'offre pas, hein, j'ai pas une thune.
Non, je bois plus, c'est à cause de ça que j'ai perdu mon dernier boulot.
Oh bah merde, et tu faisais quoi? Ça m'intéresse vraiment pas.
J'étais nounou. Une histoire de dingue, genre j'aurais confondu le rhum et le jus de pomme, je te dis pas la tête des parents, et surtout celle du bébé.
Sincère, le site de rencontre.
Et on enchaîne avec notre Thomas Chawana. Ouais, c'était ma meilleure rime avec Thomas. Je suis désolée, j'ai pas trouvé mieux. Dans sa chronique sur l'addiction. La suite. Envoyez le jingle.
Excuse-moi. L'addiction, s'il te plaît.
Tout de suite, ma chienne.
L'addiction.
Eh bah, comment ça va, mes petits camés? Oui. Vous pensiez que les addictions, ça ne concerne que les drogues et les jeux d'argent? Que tu es au-dessus de tout ça? Et si je te disais qu'il y a de fortes chances de trouver des points communs entre toi, les chiens, les pigeons et les jeux d'argent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième chronique sur l'addiction. Alors, petit rappel. Dans la première chronique sur l'addiction, en résumé, on a parlé des addictions en général. Et surtout, que n'importe quel comportement peut devenir addictif. Aujourd'hui, on ne va pas faire de généralité. On va aller creuser du côté des addictions liées à notre usage d'Internet. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les applications de rencontres. Et si je vous disais que dans ces trois domaines d'Internet qui semblent complètement différents, on y retrouve un comportement addictif très semblable à celui qu'on peut avoir avec les jeux d'argent, casinos, tickets à gratter, paris sportifs, etc. Incroyable ! En introduction, j'ai eu le culot de te comparer, ça marche aussi pour moi, hein, à des chiens et des pigeons. L'histoire commence en Russie il y a 100 ans. Il y a eu un gars qui a fait des expériences sur des chiens. Son nom, Ivan Pavlov. Si tu te demandes d'où vient l'expression « réflexe pavlovien », comme pour dire « j'ai agi de manière spontanée sans trop réfléchir », eh bah ça vient de lui, Ivan Pavlov. Qu'est-ce qu'il en a fait de ces chiens ? Pavlov, c'est un peu le père fondateur de la psychologie comportementale, c'est-à-dire expliquer l'individu, toi, moi, de par ses comportements. Du coup, influencer les comportements de l'individu, c'est influencer l'individu lui-même. Tout de suite, l'expérience du chien de Pavlov. Il s'est rendu compte, comme toi, si tu as un chien, qu'à la vue de nourriture, notre toutou va se mettre à baver. Bon, c'est pas ça qui lui a donné le prix Nobel en 1904. Il y a ajouté un petit paramètre. Avant de donner sa pitance à notre boule de poil, il fait sonner une cloche. Jusque-là, tout va bien. Le chien attend, il est calme, il entend la cloche, il bave, il mange, il est content. Pavlov va alors habituer le chien à ce petit rituel. Son de cloche, puis nourriture. Sauf que, à un moment, il va arrêter de servir la gamelle au chien. Il va juste faire sonner la cloche. Ça devient un automatisme. Le chien bave dès qu'il entend le son de la cloche alors qu'il n'y a aucune nourriture à la clé. Il a dérivé un comportement naturel du chien, baver sans nourriture, en associant nourriture avec un son de cloche. On se téléporte 30 ans plus tard. On est dans les années 30, 1930. Cette fois, c'est un occidental qui va prendre la relève de Pavlov, en poussant l'expérience du chien clochette encore plus loin. Son nom à lui, c'est Boris Frédéric Skinner. Et son expérience, c'est la boîte de Skinner. Skinner, les chiens, ça l'emmerde. Lui, ce qu'il aime, c'est les souris et les pigeons. Ce qu'il va faire, c'est mettre un pigeon dans une cage. Dans cette cage, il y a un levier et un réceptacle à nourriture. Au bout d'un moment, à force de tourner en rond dans sa boîte, le pigeon, il va se mettre à tripoter l'interrupteur. Pouf, jackpot, de la nourriture tombe dans le réceptacle. 5 graines, pas une de plus, pas une de moins. Le pigeon, malin, comprend le stratagème. Il actionne le levier, 5 graines tombent. Il les mange. S'il a encore faim, il actionne de nouveau le levier, 5 graines tombent. Dès qu'il n'a plus faim, il arrête, il est rassasié. Ça, c'est la première expérience. C'est là qu'on va se marrer. Deuxième expérience. On a toujours une boîte, un pigeon, un levier, une galetouse. Sauf que, cette fois, lorsque le pigeon va actionner le levier, ce ne sont pas 5 graines, rappelez-vous, 5 graines, pas une de plus, pas une de moins, mais ce sont entre 1 et 10 graines qui vont tomber dans le réceptacle à nourriture. Le comportement du pigeon va alors tourner à l'addiction. Rappel, dans le premier cas, il n'y a pas d'aléatoire. Levier, 5 graines, il les mange, il est content, il est rassasié. C'est un comportement sain. À partir du moment où le nombre de graines devient aléatoire, incertain, le pigeon se met à manger au-delà de son appétit. Et c'est pas tout. Il va développer des comportements superstitieux. Comme faire un tour sur lui-même avant d'actionner le levier, taper du bec 2 ou 3 fois sur la gamelle, appuyer 2 fois sur le levier, etc. En modifiant la condition de la récompense, c'est-à-dire j'appuie, j'ai quelque chose, en j'appuie, j'ai peut-être quelque chose, Skinner s'est rendu compte qu'il pouvait alors influencer le comportement de ses pigeons de manière positive ou négative. Revenons à nos moutons, nos chiens, nos pigeons, peu importe. Pourquoi je vous parle de tout ça? Et surtout, c'est quoi le rapport avec Internet, les applis, les réseaux sociaux, les sites de rencontres et des expériences qui ont 100 ans? Mes chers amis, il est temps de parler notifications. Les notifs, tout le monde connaît. T'en as tout le temps sur toutes les applis de ton téléphone. Dans la logique des choses, une application devrait te notifier d'une nouveauté au moment où elle arrive. Exemple, Quelqu'un vient de partager ton post Facebook, Twitter, Instagram, peu importe, hop hop hop, instantanément, notification. Et si je vous disais qu'en réalité, il se cache une boîte de skinners derrière vos notifications? Je m'explique. Une application comme Facebook ou Instagram ou encore Tinder, l'application de rencontre, ne vont pas vous notifier au moment où la nouveauté arrive. Si l'application identifie un changement qui a de fortes chances de vous intéresser, il va le mélanger au milieu de notifications dont tu te fous royalement. Exemple. Une fille m'a répondu sur Tinder, c'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un m'invite à la fête du navet à Batignac-sur-Vézère. Eh bien ça, certaines applications arrivent à le savoir. Comment elles font, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas en parler ici. Une fois que la notification intéressante a été identifiée, on va vous donner à manger des notifications rien à foutre avant de vous donner le Graal. Eh bien là, je vous l'affirme, votre comportement vis-à-vis des notifications va être le même que celui du pigeon de Skinner vis-à-vis de ses graines aléatoires. Un comportement addictif. Il se passe la même chose dans une application comme Tinder. Après un certain temps passé sur l'application, l'application sera en mesure de savoir quel genre de personne tu veux rencontrer, tu veux matcher. Mais au lieu de te la proposer directement, on va te proposer avant des profils qui ne t'intéressent pas. En plus de pigeon, on est aussi le chien de Pavlov. En entendant l'effet sonore de la notification, quelque part, on va baver en spéculant sur l'intérêt de cette dernière. Alors que 9 fois sur 10, on sait qu'on va être déçu. Mais l'incertitude de l'intérêt de la notif va nous faire ouvrir l'application. Dans certains jeux vidéo, c'est le même procédé, les loot box. Ça peut être un paquet de cartes à ouvrir, un coffre journalier à ouvrir, une récompense aléatoire. On sait très bien qu'on est souvent déçu, mais on a été conditionné pour voir apparaître une potentielle récompense intéressante. Conclusion. Pourquoi ces applications veulent créer en nous des comportements addictifs? Est-ce une conspiration des puissants de ce monde pour contrôler nos cerveaux? Nous rendre bêtes et asservis? La vraie raison, elle est plus simple et pragmatique. Nous n'avons jamais été autant sollicités. Des milliers d'applications, des millions de vidéos, des milliards de tweets. Notre attention, c'est-à-dire notre capacité à nous concentrer sur quelque chose, est très 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 limitée par rapport à l'offre gigantesque de ces applications. Un des moyens qu'elles ont trouvé de capter notre attention, nous faire rester sur l'appli et donc générer plus de publicité, c'est de nous rendre addicts à elles. Voilà, nous sommes tous des pigeons de Skinner et des chiens de Pavlov.
Surtout vous.
Je suis plus une girafe, je pense.
Plus une girafe, t'es une girafe de Skinner. Ça fait beaucoup d'animaux, je trouve, dans ces chroniques. Je suis très content de ça, de ce petit détail.
Chronique animalière. Et pour clore cette émission, nous allons écouter la chronique cinéma de Benjamin le Petit Poussin. Pour rester dans les animaux.
Petit poussé, j'ai envie de dire.
Et tout de suite, le jingle.
Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ah, si !
Cinéma !
Mash-up.
De la bouillie de cinéma. Bouillie.
Je trouve ça tout à fait bouleversifiant.
Tâchez au dos.
Et voilà les amis, c'est Noël, ça arrive. Mais oui, pourquoi je vous parle de Noël? Ça n'a rien à voir.
Quelle introduction surtout.
Joyeux Noël.
Non, attendez, je vais raccorder les wagons. Ben, moi, Noël, il y a un truc que ça m'évoque, c'est les films de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de ces films. Ben si, les téléfilms en plusieurs parties de 3 heures chacun qui passent pendant les vacances. Moi, il y en a un perso qui m'avait marqué quand j'étais gamin, c'était l'adaptation des Voyages de Gulliver. Où on y suivait les aventures du capitaine Gulliver qui faisait naufrage et se retrouvait tantôt dans le monde des Lilliputiens, où il était considéré comme un géant, tantôt dans le monde des géants, où il était donc considéré comme un Lilliputien. Et je sais pas pourquoi, je dois vous avouer que les films où les personnages sont miniaturisés me fascinent un peu. Du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et je pense que ce qui me plaisait dans ces films quand j'étais enfant, c'était leur côté ludique et créatif. Par exemple, dans le film « Chérie, je rétrécis les gosses », qui est sorti en 1989...
Mis en pièces, mes enfants.
Non.
Si la machine les avait mis en pièces, il y aurait des lambeaux de chair éparpillés partout.
On suit les aventures d'enfants qui ont été miniaturisés accidentellement par un rayon créé par leur père, qui est une sorte de savant fou. Et il y avait des scènes qui m'avaient vraiment marqué étant enfant. C'est un film que j'ai pas revu depuis mes 10 ans, je pense. Scène où ils se retrouvent dans un jardin et tombent sur un biscuit qui fait 100 fois leur taille. Et ils se mettent à le dévorer à pleines dents, ce qui évidemment me faisait fantasmer étant enfant, et je l'avoue encore un peu aujourd'hui. De la même manière, lorsque les gamins arrivent à apprivoiser une fourmi pour s'en servir de moyen de transport, ou quand ils se baignent dans un bol de céréales, ça me poussait à aborder mon environnement de manière plus créative, un peu comme dans le film Alice au Pays des Merveilles.
Hé, monsieur !
En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.
Quand Alice est réduite à la taille d'un insecte et se retrouve dans un jardin où les fleurs peuvent chanter, une chenille récite de la poésie, et où un jeu de cartes devient la garde royale d'une reine tyrannique.
La chenille, elle est trop bien.
Oui, je suis un peu fan. Mais au-delà du regard plein d'imagination et d'émerveillement d'un enfant sur son environnement, ces films abordent, je trouve aussi, le vertige que provoque ce nouveau point de vue sur notre monde et la place que nous y avons. L'un des points communs de ces films, c'est qu'ils appartiennent pour la plupart au genre de la science-fiction et font écho à la fascination et à la crainte du progrès scientifique et aux avancées technologiques de leur époque. En tête de liste des avancées scientifiques qui ont inspiré beaucoup de films de série B, il y a bien évidemment la bombe atomique. Où en général, les radiations ont plutôt tendance à faire grossir les êtres vivants, notamment, on pense tous à Godzilla, mais il y a des films un peu plus méconnus comme Les monstres attaquent la ville, où des fourmis deviennent géantes et attaquent la ville.
C'est bien trouvé.
Ouais, mais pas autant que le prochain, où, qui s'appelle Attack of the 50 Feet Woman.
I can't shoot a lady.
Où c'est une femme géante, du coup, de 50 pieds de haut, qui attaque une ville. Ouais. Très originale.
Ça a toujours fait peur, la femme.
Hein. Surtout, plus que les radiations. Et donc, en général, c'est plutôt dans cette tendance-là qu'on va, vers le gigantisme. Mais il y a un film qui a pris la tendance inverse, qui s'appelle L'homme qui rétrécit, de Jack Arnold, sorti en 1957, qui raconte l'histoire d'un homme qui, après avoir traversé un nuage radioactif, se met, eh bien, à rétrécir. Et il ne va cesser de rétrécir jusqu'à finir dans la cave de sa maison où il va devoir lutter pour sa survie et apprivoiser ce nouveau monde, ramenant ainsi le héros à un état primaire. Et on retrouve un peu cette idée dans le film L'aventure intérieure de Joe Dante, sorti en 1987, où un pilote de chasse est envoyé dans un vaisseau qui est miniaturisé afin d'explorer le corps d'un lapin, mais qui se retrouve accidentellement injecté dans le corps d'un inconnu et va devoir trouver un moyen de s'en sortir. Là, c'est le corps humain que nous connaissons pourtant bien qui devient une sorte de nouveau monde à explorer, où le côté organique et microscopique donne un air de paysage extraterrestre surréaliste. Et pour en venir à l'idée de progrès scientifique qu'abordent ces films, on peut citer le film Tron, sorti en 82, où un programmeur se retrouve projeté dans un système informatique, où les programmes sont incarnés par des êtres semblables aux humains. Ce film coïncide avec l'essor de l'outil informatique qui commence, à cette époque, à prendre place dans notre quotidien. Le film usant lui-même de ces nouvelles technologies pour réaliser les effets spéciaux qui étaient plutôt révolutionnaires en son temps et annoncer une nouvelle ère, celle du numérique. Et comme je le disais un peu avant, ces films nous questionnent sur notre place dans le monde et aussi sur la condition humaine. C'est le cas du film d'animation de René Laloux et Rodolphe Topor, La planète sauvage, sorti en 1973.
Si cet animal évolue, maître Signe, nous n'avons pas encore eu l'occasion de le constater. Par contre, ce que nous constatons, ce sont les importants dégâts causés par les hommes.
L'action se situe sur une planète appelée Igram, dont les habitants ont réduit à l'esclavage des créatures miniatures appelées Homs, venues de la planète Terra, qui a été dévastée. Vous l'avez sûrement compris, les Homs, ce sont nous, les humains. Et sur cette planète, nous ne sommes pas seulement des esclaves, mais aussi des animaux de compagnie, sorte de singes savants, accentué par le fait que les Homs n'ont pas de dialogue et sont parfois traités comme des insectes nuisibles que l'on doit exterminer. Il y a une scène assez terrifiante où c'est vraiment de la désinsectisation de cafards, où ils arrivent avec des grands fumigènes et chassent des espèces de foyers humains. C'est un film d'animation, mais plutôt traumatisant pour un gamin. Et bref, dans ce film, c'est en s'unissant et en se rebellant que les Homs arriveront à se libérer et à dépasser leurs conditions. Mais selon moi, le film qui aborde la question de la condition humaine, qui me parle le plus, en tout cas qui m'a le plus touché, c'est L'homme qui rétrécit, dont je vous parlais juste un peu avant, et en particulier la scène finale, où dans un très beau monologue, le héros comprend qu'il ne cessera de rapetisser jusqu'à la déshumanisation, réduit à la taille d'un atome, pour au final disparaître, acceptant ainsi sa propre finitude et son insignifiance face à l'univers.
Si d'autres nuages de radiation dérivaient encore sur les mers et sur les continents, d'autres hommes viendraient-ils me rejoindre dans ce vaste nouveau monde? l'infiniment grand et l'infiniment petit n'étaient peut-être, comme le prétendaient certains philosophes, que les deux faces d'une même réalité, se rejoignant quelque part dans l'univers.
Et c'est sur ça que je vais vous laisser méditer, mes petits loups.
Merci pour ces beaux conseils. Et ben nous arrivons à la fin de cette émission, mes petits carpincho chou, hein. C'était comment pour vous de changer un peu le... Sauf pour toi, Benjamin, mais de changer un peu le format, là, en introduction.
Bon, écoute,
vous êtes content?
Ouais, c'était pas mal.
C'était pas mal.
C'était bien. C'était bien.
C'est du mal à trouver... Tu distinguais mieux le girafe de la chacale que moi. J'ai un peu moins de mal, mais je pense... Sincèrement, après cette petite chronique, je pense sincèrement qu'après ce petit point, j'arriverai mieux à être meilleur girafe.
C'est tout ce que je te souhaite, Thomas.
Merci.
Mais quelle lèche-cul, c'est possible. En tout cas, j'espère que vous, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, hein, je ne vous force pas, hein, ce n'est pas une exigence, c'est plutôt... une demande, une proposition d'aller nous le partager sur notre page Facebook Bazar et vous. Nous, ça nous fait toujours plaisir et en tout cas, ça nous fait aussi progresser, quoi.
C'est vrai.
Pour ça. On adore. Allez, des bisous et...
bisous.
Ciao, ciao.
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 Bizarre.
Et vous...